30 ans après la professionnalisation des clubs de rugby, comment se porte-t-il Isabelle Duché?
En Occitanie, nous le savons, le rugby est un sport collectif, joué et suivi avec passion. C'est aussi une véritable culture dont les valeurs irriguent notre région. Et malgré le passage au professionnalisme, le rugby n'a pas perdu de sa saveur. Mais qu'en est-il de la santé de ces clubs? Nous posons la question ce matin à Fabrice Bain, professeur des universités à Sciences Po Toulouse. Bonjour professeur.
Bonjour Madame Duché.
La Chambre régionale des comptes a procédé au contrôle de 7 clubs de rugby professionnels, 4 en top 14, je les rappelle, Stade Toulousain, Montpellier, Perpignan et Castres, et puis 3 en pro D2, Béziers, Montauban et Colomiers. Cette étude avait 3 objectifs. Le premier, c'était d'examiner la situation financière des clubs professionnels de la région après la crise sanitaire. Le deuxième objectif, c'était de connaître l'état de la relation entre le monde amateur et le monde professionnel au sein de chaque club. Et le troisième objectif, c'était d'analyser l'impact et la nature des soutiens publics apportés. Fabrice Bain, lors d'une table ronde à Sciences Po Toulouse, vous avez mis en perspective ce constat dressé par la Chambre régionale des comptes. Alors, je vous propose de parler d'abord de ce modèle économique des clubs de rugby. Il est, dit la Chambre régionale des comptes, structurellement déficitaire. Pourquoi ?
Alors, tout simplement parce que le modèle économique est basé sur une situation très particulière qu'on retrouve dans d'autres domaines, notamment par exemple dans la presse, où au XIXe siècle, en créant la presse moderne, Émile de Girardin a identifié et a mis en pratique une théorie qui s'appelle la théorie du double marché, ou marché biface, peu importe sur les appellations, qui signifie que l'entreprise s'adresse à deux publics différents qui sont liés, à savoir, pour la presse, les lecteurs, et derrière, les annonceurs. C'est ce qu'il avait fait. Girardin avait comme ça divisé par deux les abonnements pour avoir le maximum de lecteurs, et ainsi pouvoir vendre plus cher les encarts publicitaires qu'il a multipliés dans... la presse était justement le titre de son journal.
Et donc pour le rugby, ce double face, ce sont les annonceurs, enfin les sponsors ou mécènes, et puis le public, c'est ça?
Exactement, parce qu'il me semble qu'on... Alors, on applique un peu cette théorie sur les problèmes de plateforme de diffusion des matchs, mais ça s'applique aussi, de mon point de vue, au modèle économique de base. Puisque, et c'est pour ça d'ailleurs que les tarifs pour accéder au stade sont extrêmement avantageux. Il faut avoir le maximum. On a à peu près 15 000 spectateurs en moyenne dans chaque match du top 14 en France.
Alors et les spécialistes vous diront, et les habitués vous diront, que les places sont quand même de plus en plus chères les stades.
Mais techniquement parlant, il y a structurellement des efforts qui sont faits. D'accord. Ce qui explique le constat de la Chambre régionale des comptes, à savoir que la billetterie n'est que le troisième poste en moyenne. Alors, sauf au stade toulousain, parce que grâce au succès, ils attirent plus de monde. C'est le deuxième poste. Donc ce n'est que le troisième poste. Pourquoi ? Parce que le premier financeur des clubs, et c'était déjà le cas au moment de l'amateurisme, ce sont des mécènes, des partenaires, des entreprises qui subventionnent largement ces clubs. Mmh. Et donc, vous retrouvez avec, justement, un public qui est là, mais qui est limité parce qu'il est en concurrence avec les autres sports. On a un nombre de licenciés en rugby qui reste quand même bien inférieur au nombre de licenciés en football ou en tennis, etc. Mmh. Au niveau national, c'est le 9e sport en termes de licence. Au niveau local, évidemment, ici en Occitanie, c'est le 3e. Oui. Mais ça reste quand même relatif. Mmh. Donc la possibilité d'avoir un public plus nombreux est limitée. Et par contre, ceux qui financent largement les clubs, ce sont des annonceurs, des partenaires, des mécènes, et notamment il y a un certain nombre de clubs où il y a une entreprise majeure qui tient le club.
Mmh. Et que ce soit pour le nombre de spectateurs ou pour le nombre d'annonceurs, évidemment les résultats sportifs des clubs entrent dans la négociation.
Évidemment, puisque ça a un impact sur la présence en club. Vous citiez justement les clubs qui ont été évalués. Montauban vient de monter en top 14. Et évidemment, on s'attend à ce qu'il y ait une plus grande présence au stade grâce à cette montée dans le top 14. Mm-hmm.
Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à cette double provenance des recettes? Est-ce qu'il faut encore essayer de les diversifier? Qu'est-ce qu'ils doivent faire, les clubs?
Alors, effectivement, il y a une piste qui a été présenté par la Chambre régionale des comptes, qui montre que, et on voit quelques exemples comme ça dans d'autres sports, comme notamment le football, la diversification des recettes permet de renforcer évidemment la force économique d'un club. Notamment, pour le stade toulousain, on a des recettes plus importantes en ce qui concerne la vente de tous les produits dérivés.
Ah oui.
Alors évidemment, il n'y a pas que les écharpes ou les maillots, mais ça participe de cette économie. Et la possibilité est plus forte quand le club possède le stade, ce qui est extrêmement rare.
Et ce qui est le cas du voilà. Stade toulousain.
Et alors, le Stade toulousain, effectivement, a une association qu'il soutient et qui possède le stade. Et c'est la même problématique qu'on retrouve, par exemple, en football. Certains clubs veulent acheter le stade pour justement pouvoir utiliser le stade en dehors des rencontres sur le plan économique, pour pouvoir attirer d'autres recettes.
Oui, ça pourrait permettre de le louer à d'autres, pour d'autres prestations.
Alors, le louer ou attirer du public. Par exemple, vous avez certains clubs mondialement célèbres en football qui sont visités par des fans tout au long de l'année, etc. Oui. Et qui, évidemment, accèdent à la boutique, payent pour visiter le stade en dehors des matchs, etc. Mmh. Ça génère effectivement des revenus supplémentaires.
D'accord.
Et c'est le modèle qu'a voulu évidemment appliquer l'Olympique Lyonnais en football dans son nouveau stade à l'est de Lyon.
D'accord. Donc les solutions, c'est les produits dérivés, avoir son propre, être propriétaire de son stade.
C'est une possibilité,
et,
oui.
Et puis le mettre à disposition pour générer des recettes.
Oui.
D'accord.
C'est une solution. Alors, c'est une solution, attention, hein. C'est pas la solution miracle, parce qu'on est quand même sur un modèle économique qui... et structurellement fragile. Il faut quand même dire ce qui est. L'absence d'un soutien économique fort empêche la perpétuation d'un... Un club peut faire faillite. Il faut quand même le savoir. Et ce que soulève la Chambre régionale des comptes, c'est que c'est la force et la faiblesse du rugby d'avoir justement des soutiens.
Mmh.
Et inversement, la faiblesse, c'est que justement, il y a certains clubs qui ont pu être connus dans le passé qui ne sont pas justement dans l'élite, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que le milieu économique local ne donne pas les moyens, justement.
Ne soutient pas suffisamment.
Ne peut pas soutenir suffisamment le club.
Oui, oui, oui. Il y a aussi, dans ces clubs, la masse salariale qui n'est pas négligeable.
Alors, elle est fondamentale. C'est la principale dépense. Même si le rugby a la particularité d'avoir un système de salary cap, c'est-à-dire de plafonnement, mais on retrouve la même logique d'augmentation, d'inflation salariale que l'on observe également dans le football, évidemment avec une toute autre proportion, bien évidemment. C'est la principale dépense. Et de ce point de vue-là, évidemment, c'est lié justement au succès, à la volonté d'attirer les meilleurs joueurs pour justement générer de meilleurs résultats et donc d'attirer de meilleurs publics.
Mmh, oui. Le deuxième point du rapport de la Chambre régionale des comptes, c'est qu'il était prévu lors de la professionnalisation des clubs de rugby il y a 30 ans, une solidarité entre les clubs professionnels et les clubs amateurs. Dans les faits, apparemment... Ça ne marche pas systématiquement. Qu'est-ce qui bloque, professeur Urbain ?
Qu'est-ce qui bloque ? Tout simplement les conséquences du contexte économique dont nous parlions juste avant. Alors, c'est vrai qu'il y a des cas très originaux qui ont été remarqués par la Chambre régionale des comptes. Je pense notamment à Montauban. Montauban est monté pourquoi ? Parce qu'ils ont fait un effort économique très important. Et il se trouve que des fois, c'est l'association qui a renoncé. Elle n'a pas directement subventionné le club, mais elle a renoncé à des versements de la part du club. Ce qui, évidemment, lui a facilité les choses d'un point de vue financier. Mais...
Ça s'est fait du club amateur à la...
Voilà, tout à fait.
Au club professionnel.
Professionnel, ce qui n'est pas le cas le plus fréquent. Et donc, techniquement parlant, ça dépend. La santé financière du club va lui permettre ou pas de véritablement aider l'association. L'association va en réalité, elle, être largement financée par les collectivités locales.
Mmh.
Ce qui explique pourquoi la Chambre régionale des comptes s'est intéressée au financement des clubs.
C'est
parce qu'il y a des liens entre ces deux mondes.
Mmh. Et dans quelle proportion les collectivités locales supportent financièrement les clubs ?
Alors, sur le papier, d'après les chiffres de la Chambre régionale des comptes, il peut y avoir une subvention pour les clubs professionnels, donc qui sont des sociétés de droit privé, des sociétés commerciales, mais c'est plafonné, et donc ça ne dépasse pas 16%. Et il faut comparer ça avec le financement moyen, qui a été calculé, des clubs amateurs. Et là, par contre, on atteint 65%. Le monde associatif sportif est évidemment tenu à bout de bras par les collectivités locales. Parce que, tout simplement, ça relève de l'intérêt public. Il y a des retombées à multiples niveau. Alors évidemment, on pense au sport, à la pratique sportive, mais également vous avez plein d'implications éducatives, etc., sociales, et puis ça participe de la vie collective locale. Donc on est pleinement dans l'intérêt public local.
Oui, oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça vous suggère, vous, ce passage au professionnalisme ? Parce qu'en fait, on a vu que ça ne s'était pas accompagné de la fin des soutiens publics, puisque vous le disiez à l'instant, professeur Bain, voilà, il y a encore un soutien des collectivités locales. Quel pourrait être le modèle à venir, parce que vous dites qu'elles sont aussi très, ils sont aussi très fragiles, ces clubs.
Alors, deux choses, je dirais. Qu'est-ce que ça m'inspire ? Je pense que ça permet quand même de clarifier les choses, puisque il faut quand même dire ce qui est. On appelait ça à l'époque l'amateurisme marron. Clairement, je vous l'ai dit, la présence de sponsors, la présence d'un soutien important. Je pense par exemple à Grenoble, par exemple, Serge Kempf, le patron de, enfin, il est décédé maintenant, de Capgemini, qui était un grand mécène de la Fédération française du rugby, soutenait son club.
Et Pierre Fabre aussi, peut-être à
évidemment.
À Castres.
Alors, au niveau local, évidemment, on pense à Pierre Fabre, à Castres, c'est évident. Et alors, pareil, à Montpellier, c'est avec la compagnie Altrad, c'est moi d'Altrad qui soutient évidemment le club très majoritairement. Il faut savoir que ça, ça existait déjà avant. Clairement, à Biarritz, les joueurs, notamment les internationaux, il fallait qu'ils aient un métier,
oui,
puisqu'ils étaient amateurs officiellement. Mais on sait bien que les entreprises les embauchaient sans les faire véritablement travailler. Serge Blanco, on le crevait pas à la tâche. Il était ouvrier à la base. Je crois qu'il bossait, de mémoire, il me semble que c'était Port d'Assaut. Enfin, donc, il était dans l'industrie militaire, et techniquement parlant, évidemment, il était surtout
subventionné
sur le terrain, et heureusement, il fallait bien qu'il s'entraîne.
Oui. Voilà.
Donc, vous voyez, je pense que ça a permis de clarifier les choses.
D'accord.
Et en réalité, le sport amateur ou professionnel a besoin justement de ces sponsors, et comme le disait la Chambre, c'est à la fois la force et la faiblesse de ces clubs. Et en ce qui concerne le modèle, je viens, deuxième aspect de votre question, ce que je voudrais simplement vous dire, c'est que le raisonnement que l'on a traditionnellement, et selon la question que laisse poser les rapports de la Chambre régionale des comptes, c'est qu'on raisonne toujours avec l'idée qu'il y aurait en fait un bon modèle économique équilibré et qu'on pourrait l'atteindre. Eh bien, j'aurais tendance à penser que ce modèle n'existe pas, si
pas
ce n'est dans l'idéal.
Chercher, oui.
Voilà. Et donc, techniquement parlant, on est dans une situation qui est structurellement fragile. Effectivement, si jamais les financeurs, le financeur principal se retire, s'il n'a pas de successeur, le club peut être dans une difficulté absolument catastrophique derrière. Il faut bien avoir conscience de ça. Donc, en raison de l'impossibilité d'avoir un public qui soit suffisamment nombreux pour supporter le coût financier du fonctionnement actuel, je ne pense pas qu'il y ait de solution simple. On est dans une situation où la diversification des revenus que vous évoquiez est une solution parmi d'autres, mais qui ne réglera pas le problème.
D'accord. Bon, ben voilà, les choses au moins sont clarifiées. Merci beaucoup, professeur Fabrice Bain. Je rappelle que vous êtes professeur des universités à Sciences Po Toulouse. C'était votre grand entretien sur Radio Présence.
Merci beaucoup, madame Duché. Bonne journée à vous.